Je donne la parole maintenant à Patrick Didier et Claude Conry qui vont nous faire une synthèse du travail en atelier d'hier après-midi.
Bien, ben, nous allons embrayer sur cette partie du colloque qui consiste à restituer le travail des ateliers d'hier, qui se sont tenus d'hier. Et je pense que au terme de ces restitutions, on pourra sans doute faire ressortir quelques éléments importants dans cette mise en place du DPC universitaire. Donc je donne la parole à Claude Conry qui va nous présenter donc la synthèse de l'atelier numéro 1 sur enquête et besoin et choix d'une méthode de DPC.
Oui, bonjour. Donc, il y avait trois ateliers simultanés. Vous êtes répartis. Donc, nous, on avait imaginé un atelier dans le cadre du DPC où les deux portes d'entrée, c'était les besoins et puis les méthodes et les outils pour y arriver. On a fait quelques présentations théoriques là, avec Daniel Serini. On a fait un tour de table. Et puis après, on s'est rendu compte que les besoins de ceux qui étaient à l'atelier correspondaient assez loin de ce qu'on avait imaginé. Et comme tout besoin est légitime, eh bien, on a essayé de répondre un peu aux questions les plus fréquentes qui ont été évoquées. Alors, c'était surtout un groupe qui avait besoin d'infos et de précisions. Alors, notamment sur les relations dans le cadre du DPC entre les universités, puisque ici c'est DPCU, et puis les CHU. Donc il est apparu que c'est extrêmement varié et que les relations sont assez complexes, et il semble que cette complexité, ces difficultés tiennent au financement du DPC, quoi, c'est-à-dire c'est le partage des sous qui pose problème. Alors après, il y avait une question sur l'enregistrement des organismes publics, donc l'université aussi, les CHU qui ont posé des dossiers sur, auprès de l'OG DPC, de la CSI, quel était l'état des lieux. Alors il semble qu'il y ait presque toutes les universités ont déposé des dossiers, ont été enregistrés, mais on a assez peu de réponses objectives s'ils sont enregistrés favorablement et de manière pérenne et continuelle. Donc on a besoin d'interroger encore ce système d'enregistrement qui nous paraît prendre pas mal de retard. Et pour certaines universités qui se sont vues, semble-t-il, recevoir un camouflet, ça fait mal. Alors après, il y avait nécessité d'éclaircir le statut des DU dans le cadre du DPC. C'est-à-dire la question du DPC, du DU qu'on met au format DPC, c'est-à-dire qu'on se formate, ou la notion qu'on a vu surgir que le DU était un équivalent DPC. Donc il y avait quand même besoin d'éclaircissement sur ça, et tout n'est peut-être pas très 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 définitif. Ce qui est ressorti, c'est que si on met notre DU au format DPC, bien sûr les participants recevront de l'argent, et l'organisateur, donc l'université également. Alors après, c'était posé la question des possibilités de cofinancement de formation plutôt longue universitaire. Une partie faisant DPC et puis une autre partie éventuellement étant hors DPC, et peut-on faire financer une partie dans une formation longue dans le cas du DPC et puis le reste par des cofinancements. Donc on n'a pas su clairement répondre à ça. Enfin, il y a des possibilités en tout cas. Ensuite, il y a des questions sur la reconnaissance des activités d'enseignement ou de rédaction d'articles par nos collègues universitaires, dont il faut souligner que c'est quand même leur métier. Et alors que dans les méthodes du DPC, là, et HAS, il y avait activités d'enseignement, rédaction d'articles. Tout ça n'est pas très clair et apparemment, aucun... aucun département de formation continue ou unité mixte, etc., n'a fait transiter auprès de l'OGDPC des demandes d'enseignants en disant, voilà, hein, moi j'ai écrit beaucoup d'articles, donnez-moi mon DPC. Et puis, après, une dernière réflexion, c'était demander à ce qu'on puisse inclure des séquences de simulation, parce que beaucoup d'universités maintenant ont des sites de simulation, donc d'inclure des séquences dans les programmes DPC. Donc c'est pour faire vivre un peu ces centres de simulation dans le cadre de la formation permanente, pas que de la formation initiale. Donc c'est une incitation forte, donc il y a les médecines d'urgence, la rhumatologie, des gestes, la gynéco-obstétrique, etc. Donc c'est une manière d'amplifier, de valoriser notre affaire. Voilà. Donc je suis pas du tout sûr qu'on soit arrivé à faire vivre notre atelier par rapport à l'objectif initial. Mais c'était les besoins. Et je répète, les besoins sont légitimes. La question, c'est que les deux experts qui étaient là n'avaient pas réponse à tous les questionnements posés. Alors je pense qu'on va les avoir aujourd'hui, notamment auprès de Madame Weber ou d'autres, qui est responsable de l'OGDPC, qui peut-être pourra nous éclairer un peu mieux sur tous ces questionnements. Voilà, pour l'atelier numéro 1. J'espère que j'ai pas trop trahi. Où est-ce qu'il est, Daniel? Oui, dites-moi. J'ai oublié quoi?
C'est pas un oubli parce que j'étais pas à l'atelier, donc j'ai pas d'avis sur ce que vous avez oublié. C'est juste un commentaire. Isabelle Richard, je suis doyenne de la faculté de médecine d'Angers. C'est intéressant en soi que 2 ans après la mise en place du DPC, quand on regroupe des collègues qui ont retroussé leurs manches et qui les ont mis dans le cambouis depuis 2 ans, ils ont toujours pas compris comment ça fonctionnait. Peut-être que ça traduit que c'est quand même difficile à comprendre.
Je pense qu'il y a un certain flou. Effectivement. Oui, Patrick.
Ouais, Claude, je crois que c'est pas forcément de la non-compréhension. Je pense qu'il y a là, on voit bien qu'il y a tout un tas de réponses que l'on se pose depuis plus de 2 ans et pour lesquelles on n'a aucune réponse. Voilà, c'est qu'on n'a pas de réponse, donc on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas comment faire.
On a incité beaucoup nos collègues à s'intéresser fortement au DPC. On a mis des structures universitaires pour les aider, hein, qu'elles soient un peu administratives ou qu'elles soient administratives et médicales, pharmacies, etc. Donc il y a des gens qui y sont venus, enfin de notre expérience, mais ils viennent, ils font l'effort, mais ils veulent que leur effort soit récompensé. Quand ils arrivent devant des non-réponses, une potentialité d'échec pour un universitaire, je peux vous dire que c'est mal vécu. Oui.
Philippe Michel, Lyon. J'avais une précision à apporter sur le statut des articles, puisque la conférence des DG de CHU et la commission de qualité de la conférence des DG de CHU avec les médecins, hein, donc la conférence des présidents de CME, a élaboré des critères d'évaluation de réussite ou de conformité à chacune des méthodes de l'HAS. Et quand on a rédigé la fiche qui concernait les articles, effectivement, on a été dans la même interrogation que vous, donc on a échangé avec la HAS. Le statut actuel de la fiche technique HAS sur l'article est en cours de rédaction. Ce qu'on est en train de discuter notamment, enfin ce que je vois, ce qui est discutable, c'est quels auteurs auront accès à l'obtention de leur DPC. Est-ce que c'est simplement le premier auteur? Est-ce que c'est le premier et le dernier? Est-ce que c'est un et deux et dernier? Est-ce que ceux qui sont dans la liste des groupes de travail, dès lors qu'ils sont dans un autre CHU que celui qui est l'auteur principal, peuvent aussi émerger, on le voit pour les thérapeutiques multicentriques. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont concrètement en cours de réflexion, mais c'est de la réflexion actuellement.
Oui, l'état des lieux nous avait été rapporté. Je crois que Daniel Sirigny connaissait l'état d'avancement de cette activité. Mais ma réflexion au-delà de ça, c'est que attention, ne pas tomber dans le détail du détail du détail du détail, c'est pas ce dont on a besoin actuellement. Enfin, si je me permets de proposer, hein, des choses simples pour avancer.
Deuxième éclaircissement, c'est celui des organismes et des réponses de l'OGDPC et des CSI. Dans les CHU, en tout cas, il y a aussi un état des lieux qui est en train d'être fait en ce moment. Il y en a qui ont été validés pour la totalité des CSI, enfin les HCL l'ont été, et il y en a effectivement qui ont été effectivement déboutés et qui aussi en CHU trouvent que c'est un peu dur.
Voilà. Ce qu'on aimerait, c'est bénéficier un peu d'informations et de transparence hein, par rapport à toutes ces procédures d'enregistrement, voilà, que ça soit rendu éventuellement un peu plus public. Mais ça, c'est mon point de vue. Bon, on avance, peut-être, pour le deuxième atelier, parce qu'on a pris pas mal de retard.
Donc
c'est beaucoup de questions, et pour le moment, voilà, comme la dernière diapo de notre collègue, là, hein, un petit peu de brouillard, quand même. Bien qu'il y ait un chemin tracé, comme tu as dit. J'ai bien vu ta photo.
Il y a des arbres, on peut aller prendre.
Bien, merci Claude. Donc Marie-Hélène Bernard va nous présenter la synthèse de l'atelier numéro 2 sur les conflits d'intérêts.
Ça fonctionne. Donc, théoriquement, j'étais avec Jean-Dominique de Corvin, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres. Et donc, j'ai une co-animatrice. Je me présente.
Bonjour, je me présente, je suis Patricia Hassen, aux affaires générales de l'EDPC de la PHP.
Voilà, donc nous avions un atelier liens et conflits d'intérêts. Liens et conflits d'intérêts, c'est un sujet qui est passionnant. On n'a pas résolu complètement le problème.
Tout à fait.
Et donc on a mis quelques définitions. Donc nul ne peut servir deux maîtres. Enfin, on peut toujours, hein, mais où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Bon.
Oui.
Alors, l'indépendance ne se conçoit que dans la relation à un tiers, et en fait, le plus difficile à gérer, c'est une relation essentiellement humaine, donc complexe, donc difficile à cadrer. Et le conflit le plus difficile à gérer, c'est celui qu'on a avec nous-mêmes, en fait. Alors celui-là, on ne pourra pas le mettre dans des protocoles, dans des chiffres. Donc on a beaucoup réfléchi là-dessus. Et les liens qui existent, ils sont assez variés. Ça peut être vis-à-vis d'une intervention ponctuelle, mais ce sont des liens d'intérêt qui peuvent perdurer dans le temps. Ils peuvent s'étioler, ils peuvent évoluer, et on a essayé de réfléchir à partir de quand on doit parler de conflit d'intérêts, en concluant finalement qu'il y a un aspect qui est facile, c'est l'aspect financier, et un beaucoup plus difficile, c'est l'aspect moral. Alors, les conclusions de l'atelier, là je compte sur toi pour m'épauler. Donc, une des premières réflexions, conflit ou lien d'intérêt, est-ce qu'on doit parler de conflit ou de lien? Et on avait au sein de l'atelier plutôt conclu qu'il s'agissait de lien et non pas de conflit. Conflit, c'est déjà une notion contentieuse.
Contentieuse, tout à fait. Et donc, il fallait être dans la première partie plutôt du déclaratif. Et de déclarer ses liens d'intérêt. C'était une première chose à faire. Et que pour arriver jusqu'au conflit, là, c'était beaucoup plus. C'était plutôt dédié à une instance qui devrait peut-être se positionner sur le conflit ou extérieur. Mais déjà, si on déclarait ses liens d'intérêt, c'est déjà une première étape qu'il fallait faire et nécessaire.
Et alors, dans la déclaration, à quoi on doit se tenir? Ben, finalement, ce qui est relativement simple à évaluer, à déclarer, c'est le lien financier, c'est l'avantage en nature qui est le seul vraiment objectivable. Dans un souci de transparence, donc déclaration systématique, ça, je crois que ça ne souffre pas beaucoup de commentaires, c'est admis par tout le monde maintenant. Mais alors, le problème, c'est à partir de quelle somme? Parce que c'est bien gentil de dire on déclare tout. Est-ce qu'un petit four, c'est déjà un lien? À l'euro près. à partir de quelle somme, donc ça on vous interroge, à partir de quelle somme vous allez déclarer des liens d'intérêt éventuels, puisque tout lien... Pardon ?
Ça dépend de la qualité du tuto.
Oui, mais est-ce que c'est vraiment évaluable ? La qualité du petit four, c'est évaluable. Donc nous réfléchirons là-dessus. Parce que finalement, tout lien d'intérêt exclut, si on a bien compris, une action qui puisse être reconnue comme action ayant valeur DPC.
Elle exclut Vas-y. Pas, je pense qu'elle voulait.
Évidemment, je donne un avis, comme pour la haute autorité, etc., tout ce qui a fait l'objet d'un lien contractuel. Voilà la ligne. Donc, mais lien contractuel signé, c'est tout. Alors ensuite, l'utilisation qui est faite de ce lien dépend de l'organisme qui a fait le contrat et non pas de celui qui a signé le contrat, puisque tout cela est obligatoirement diffusé. Il suffit de cliquer le nom de quelques universités.
Mais ici, tu peux donner un micro.
On clique mon nom, Vestignani, et il y a un conflit d'intérêt, paf, c'est décrit de façon manuscrite. C'est-à-dire ce que je déclarais au niveau de la haute autorité de santé, etc. Donc c'est ça le plus contractuel. Et c'est cela qui fait l'objet sur le plan juridique. Il fait l'objet sur le plan juridique, puisque s'il y avait discussion d'un conflit d'intérêt, eh bien les avocats, les plaignants, ayant participé malheureusement, pour aider des collègues, etc., à des expertises sur ce plan-là, sans doute toi aussi, Marie-Hélène, dans ce contexte-là, eh bien, on se base essentiellement sur les déclarations, des contrats, etc. Voilà, voilà l'avis que je peux donner. Hein. C'est... Maintenant, est-ce que dans les formations, il faut aller jusque-là? J'ai vu que certains collègues avaient été, j'ai un dossier, un certain collègue avait été considéré comme avoir un conflit d'intérêts parce que trois laboratoires pharmaceutiques avaient participé à l'aide logistique de DIU. Ce n'était pas à l'époque du DPC. Or, c'était des experts qui étaient missionnés par l'ONIAM dans des missions tout à fait précises. La partie adverse ayant remarqué que leur nom apparaissait, a fait casser, n'est-ce pas, l'expertise. Donc je le dis, voilà, donc peut-être pour le DPC, il faut aller jusque-là. Moi, je conseillerais volontiers que les contrats.
Alors, je te remercie, mais pour faire un contrat, c'est déjà bien cadré, bien. Mais la majorité des liens d'intérêt, enfin, ou une bonne partie du moins, se passe totalement de contrat.
Si, même pour un voyage, par exemple, etc., pour un congrès, etc., pour toute participation à l'heure actuelle qui dépasse, par exemple, une restauration, ça c'est le Conseil de l'Ordre qui le demande, qui l'exige, une restauration au-delà de 60 euros la nuit, si c'est au-delà de 50 km du lieu de domicile, je dis à peu près de tête, parce que dans nos programmes de formation, on en tient compte, nous, eh bien, donc ça doit faire l'objet d'un contrat, là, avec le Conseil national, le Conseil départemental sous couvert du Conseil national de l'Ordre. 60 euros la nuit, plus de 50 km.
D'accord. C'est la notion que vous avez tous, Daniel, peut-être.
Je suis d'accord pour dire que l'idée de se baser sur l'existence d'un contrat est un très bon point de départ. Mmh. On peut également se baser sur ce qui existe, sur les documents qui sont disponibles. Il y a la fiche effectivement de déclaration des liens d'intérêt de la HAS qui est disponible et qui est un bon exemple. Il y a également un arrêté de 2012, sauf erreur de ma part, pour la déclaration des liens d'intérêt, qui est un texte tout à fait officiel, puisque c'est un arrêté de la République française, qui peut servir aussi de base. Enfin, l'OGDPC fournit aussi un modèle qui est plus simple d'ailleurs, plus léger que les deux que j'ai cités. Donc il y a tout un tas d'outils. Hein. Mais enfin, sur la philosophie générale, je pense qu'effectivement, il ne faut pas se faire peur avec les stylos à billes ou avec les petits fours, évidemment, c'est pas ça, mais c'est très clairement la participation, je dirais, en progressant et de tête, là encore, c'est par exemple les invitations à des congrès, ou etc. C'est la participation à des essais thérapeutiques ou à des essais cliniques, plus généralement sponsorisés par l'industrie privée, et soit comme simple investigateur, soit comme investigateur principal ou coordinateur, c'est pas le même niveau de lien d'intérêt. Et puis enfin, à l'autre extrémité, il y a le fait d'être salarié ou consultant régulier pour une firme, qui est un petit peu le maximum de liens d'intérêt qu'on puisse avoir.
D'autres remarques ?
Merci.
Oui, là, enfin, d'après ce que je comprends, on est dans le paysage de lien d'intérêt entre enseignants et industrie pharmaceutique. Moi, je pense qu'il y a un autre champ aussi qu'il faut traiter, c'est entre organismes de formation. Parce que les CSI vont évaluer les ODPC. Et si les CSI sont... Enfin, ça va être compliqué, hein, parce que évidemment, il y aura des experts en formation. On ne va pas faire des CSI avec des gens qui ne savent pas faire. Donc, c'est comme d'habitude. On va être ou pas. Enfin, il va falloir gérer, on va dire, des liens d'intérêt entre formateurs, entre organismes de formation. Voilà. Il me semble. Enfin, c'est mon opinion, juste.
Faut-il vraiment les gérer ? Faut-il plutôt juste les avoir consignés, avoir mis sur le du déclaratif ? Est-ce le rôle pas plus de loger des PC. Parce qu'on les a consignés.
Donc, la question reste quand même ouverte. On part sur des bases saines. Une idée qu'il faut que le lien d'intérêt ait un support matériel pour valoir déclaration. Et le support matériel, c'est le contrat qui est le plus simple. Et s'il n'y a pas de contrat, bon, on est relativement tranquille. Si on a un doute, on déclare. Ça vous va comme ça. Donc, si on avance, donc qui doit déclarer ? Le formateur, l'organisateur, l'ODPC. Quand déclarer ? On s'est interrogé aussi sur le fait... on déclare en amont, donc là, tout le monde est d'accord. Mais pendant la formation, on se dit, tiens, finalement, il y a un lien d'intérêt qui apparaît évident et qui n'a pas été déclaré, ou on s'en rend compte après coup. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas forcément de solution. Et puis, dans la déclaration des liens d'intérêt des personnes, mais il y a aussi la déclaration des liens d'intérêt des laboratoires pharmaceutiques ou autres. Alors, une question, est-ce qu'il y a des croisements dans ces informations ? C'est-à-dire que la personne peut très bien déclarer un lien à l'OGDPC, et puis le laboratoire ne le déclare pas, ou vice-versa. Est-ce qu'il va y avoir un croisement de ces informations, et qui va être chargé du contrôle de la déclaration des liens d'intérêt ? Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça a été une de nos interrogations. Parce que si on dit qu'il faut déclarer les liens d'intérêt, mais s'il n'y a pas de contrôle et s'il n'y a pas de croisement, bah, finalement, on peut faire n'importe quoi. Et il n'y a pas de sanction. Et s'il n'y a pas de sanction, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à déclarer ces liens d'intérêt ?
Si on est transparent.
Si on est transparent.
On est transparent, oui. C'est la transparence.
Alors, à votre connaissance, y a-t-il des contrôles et des sanctions ? Oui, vas-y.
Moi, j'ai pas eu particulièrement de personnes à l'OGDPC qui m'a parlé de sanctions éventuelles. Par contre, le choix qu'on a fait, nous, en formation, pour nos formations DPC qu'on a pour le moment déposées, c'est de collecter en amont du programme auprès des enseignants référents, donc les porteurs de projets, les CV de chaque intervenant et la fiche de conflit d'intérêts, et de tout collecter en vue d'un contrôle que j'imagine nous aurons une fois qu'on aura notre agrément définitif. Par exemple, pour l'ondotologie, nous, à Paris Descartes, on a eu notre agrément définitif récemment, enfin début avril. Et il a été clairement notifié dans l'accord définitif que nous avons reçu qu'on serait contrôlé dans 2 ans, en décembre 2015. Donc nous, et n'ayant pas d'autres informations, on collecte en fait religieusement les déclarations et on informe les stagiaires en début de session des conflits éventuels ou de l'indépendance complète de nos enseignants et de notre programme. Bon, c'est un choix.
Comme nous la paix. Faisons la PHP.
Bien. On abrège. Oui, on abrège. Ouais, qu'est-ce que tu veux, si on fait participatif. Une question qui a été soulevée et qui a entraîner une discussion, c'est le problème des partenariats avec les labos pour maintenir la recherche, et en concluant aussi que le DPC ne résume pas toute la formation continue et qu'il faut laisser quand même une marge de manœuvre au labo et une alimentation de la recherche. Voilà. On n'a pas épuisé le sujet, bien sûr. Voilà.
Merci Marie-Hélène. Alors je vais faire moi-même la restitution du dernier atelier. Voilà, donc cet atelier a été animé par Vincent Piriou et moi-même sur l'amélioration des pratiques professionnelles et la validation d'un programme de DPC. Alors, il est rapidement apparu plusieurs sous-groupes dans l'atelier, mais avec un thème qui était celui des diplômes d'université, avec un triple constat, une grande hétérogénéité dans ces diplômes selon les universités, notamment dans la forme, le contenu, la tarification, peu de DU dans le DPC et 80% d'ailleurs hors DPC, et puis une complexité du concept de DPC lui-même. Comment faire du DPC avec les DU? Le principe le plus répandu, c'est la modularisation des enseignements que un certain nombre d'entre vous déjà ont mis en place dans leurs universités. Alors, en tout cas, des tâtonnements pour intégrer et mesurer l'amélioration des pratiques professionnelles dans l'année universitaire entre septembre et juin, c'est-à-dire la période dans laquelle se font les enseignements. Le recours fréquent à des grilles d'audit, administrées en début, en fin d'enseignement ou pendant, un usage de recommandations et de guidelines au cours de la partie cognitive de façon à tenter de mesurer l'impact sur les pratiques, et puis l'appel à des méthodes mixtes intégrant diverses situations simulées et scénarisées, comme par exemple l'annonce d'un diagnostic. Une triple nécessité pour les DU, déterminer des critères communs de DU destinés au DPC avec une tri par une commission interne à l'établissement, former les enseignants aux méthodes et modalités de DPC en insistant sur la communication interne, et puis réfléchir à une maquette d'habilitation commune pour les DU-DPC. L'amélioration des pratiques professionnelles et l'université, il est clair que la partie cognitive du DPC est incontestablement maîtrisée par l'université et sa personne dans le contexte. Par contre, il y a moins d'aisance pour aller dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles. Alors en fait, un enjeu quand on construit ces programmes, c'est de parvenir à reproduire la vraie vie pour crédibiliser l'appréciation de l'APP en tenant compte de la complexité du DPC, avec un challenge, intégrer les dimensions pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles dans les programmes, et une confrontation nécessaire face aux méthodes de PP, les éventuels pièges de ces méthodes, et quelques membres de l'atelier ont discuté sur les particularités de l'audit clinique ciblé, et puis en tenant compte, bien sûr, des préconisations de la Haute Autorité de Santé. Le DPC dans l'université, aider les enseignants et les apprenants à s'engager dans la démarche de DPC, ça c'est quelque chose qui revenait constamment dans l'atelier, favoriser le travail en réseau, éviter l'isolement, fixer un objectif commun, comment soigner au quotidien au plus près des recommandations, c'est la finalité du DPC, aider les médecins à formaliser ce qu'ils mettent en œuvre et à le favoriser dans la démarche DPC, en intégrant les méthodes de PP dans les cursus de formation. Et certains disaient, il faut commencer de toute façon par la formation initiale et ensuite la formation continue. Pensez à la simulation. Un certain nombre de CHU, d'universités sont équipés de simulateurs. On peut faire des simulations, des sessions de simulation en santé. Mais on peut faire tout simplement des tests de concordance, qui, je vous rappelle, sont une méthode intégrée de DPC pour la Haute Autorité de Santé. Et ça, je crois que dans nos universités, il faut probablement développer ça, et puis résoudre la problématique des liens avec l'industrie, notamment quand on a besoin de matériel technique pour des enseignements, en différenciant bien l'aide à l'enseignement apportée par le matériel technique de la promotion d'outils qui, bien entendu, dans ce cas-là, on pense à l'imagerie, mais il y a d'autres choses aussi, seraient hors DPC. Voilà un petit peu quelle était la synthèse de cet atelier sur l'amélioration des pratiques professionnelles et la validité des méthodes de DPC. Merci.